Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, c'est samedi, c'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassène. Avec nous, le jeune Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, Figaro Magazine en charge du Figaro Vox, et le sage Édouard Le Cerf, directeur adjoint de l'Institut BVA.
Bonjour.
Et pour commencer, Cantlou.
La campagne pour les européennes se poursuit sur certaines affiches de la liste En Marche de Nathalie Loiseau.
C'est désormais
le visage d'Emmanuel Macron qui apparaît et plus celui de la tête de liste. Bonjour à vous, Nathalie Loiseau.
Oui, pardonnez-moi, je suis un petit peu anticipé. Bonjour, Julie. Ah oui, bonjour, monsieur Vineau. Bravo pour cette forme de promotion, quelque part. Écoutez, bonjour. Oui, au sujet de ces affiches, puisque j'entends de ci, de là, une polémique, parce que les gens n'ont pas envie de positiver sur ces éléments. On a enlevé, oui. Mon portrait pour mettre celui du président Macron.
Oui.
C'est une vraie fierté pour moi de laisser la place au président Macron. Mais ça veut dire que je suis prête à tout pour aider l'Europe. S'il faut laisser le visage de M. Macron pour avoir plus d'électeurs, eh bien, j'y suis prête parce que c'est pour aider l'Europe, y compris laisser ma place sur les affiches pour pouvoir aider ma liste.
On a compris,
Nathalie.
Nathalie,
bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Emmanuel Macron.
Bonjour Nathalie. Je t'entendais, ma Nathalie. C'est sympa d'être d'accord pour céder ta place sur quelques affiches. Mais je me disais, pourquoi pas toutes les affiches? On pourrait mettre une photo d'autres personnalités, je ne sais pas, comme Kylian Mbappé ou Jean-Jacques Goldman ou même Marilyn Monroe ou un chaton ou une brique de lait ou une chaise de jardin. Au point où tu en es, Nathalie, tout est plus populaire que toi. Alors, si c'est pour l'Europe, c'est OK?
Bon, fais ça. Excusez-moi, je suis prête à tout.
Oh, on vous souhaite bon courage à vous deux.
Vous avez entendu, Nathalie Loiseau, une forme de promotion d'être imitée par notre ami Cantlou. La question que je pose, c'est est-ce que, et je la pose plus particulièrement à Édouard Le Cerf, est-ce qu'on est en mesure d'évaluer l'effet Loiseau?
Non, bien sûr, on ne peut pas l'évaluer parce qu'on n'a pas d'éléments comparatifs. Il est vrai qu'on ait deux élections en même temps avec deux têtes de liste différentes et un même corps électoral et des intentions de vote en parallèle.
On ne peut pas, considérer que si on prend la succession des sondages d'intention de vote et au début de la campagne, puis quand il y a eu la succession d'interventions, une litote peu réussie.
Oui.
Donc, pas de litote, complètement raté, de Nathalie Loiseau, c'est un des facteurs qui ont pu faire perdre les 2-3 points qu'on a cru voir perdre dans l'évolution des intentions de vote par la liste La République En Marche.
Alors, si vous avez raison, je voulais dire, est-ce qu'on peut comparer s'il était là et s'il n'était pas là, ou lorsqu'elle est arrivée? On n'a pas vu, clairement, de dynamique dans les intentions de vote. Et on voit même, il y a une forme de perte de dynamique, il n'y a pas eu d'éléments d'entraînement, il n'y a pas eu d'effet d'annonce. On a vu au contraire, et c'est plutôt ce que l'on voit sur les dernières intentions de vote, une dynamique petite, faible, mais un peu plus forte du côté du Rassemblement National et de la liste de Jordan Bardella. Donc effectivement, pas réellement d'effet. Mais pour autant, la question derrière votre question, j'imagine, c'est est-ce que c'est elle qui va faire perdre? Est-ce que le fait d'avoir une tête d'affiche qui ne prend pas beaucoup la lumière et qui ne fait pas beaucoup d'ombre, est-ce que c'est un élément qui est un élément réellement handicapant? Il y a eu des têtes de liste extrêmement importantes, connues, Michel Rocard en 1994, Nicolas Sarkozy en 1999, qui ont obtenu des scores peu glorieux, on va dire, par rapport à ce que pouvait représenter leur personnalité.
Même si Bonneveille, une fois, l'a fait 10%.
Même si Bonneveille a fait moins de 10%, effectivement. Mmh. Donc, est-ce que c'est un effet absolument nécessaire? Ça n'est pas sûr. Est-ce que c'est suffisant? En tout cas, ça ne l'est pas. La réalité, c'est qu'il faut penser sans doute qu'il y a, malgré tout, on peut considérer ce que l'on veut par rapport à cette candidature, mais il y a une forme de cohérence, on peut dire, chez Emmanuel Macron, si on peut considérer qu'il a un peu joué dans ce choix-là. La cohérence de prendre quelqu'un, un, qui ne fait pas d'ombre, et deux, au secours de laquelle on peut arriver. Et donc, une manière de préparer peut-être cette mise en majesté qu'il y a dans les affiches.
Alors, Alexandre Devecchio, Édouard Le Cerf est à la hauteur de ses talents habituels, grande qualité d'analyse, extrême prudence sur le fond. Mais moi, je voudrais vous poser...
je suis moins prudent.
Vous êtes moins prudent et puis vous avez peut-être des atomes pas crochus du tout avec Nathalie Loiseau.
Avec Nathalie Loiseau.
Quand même, supposons qu'à l'arrivée, la liste du Rassemblement National fasse un point de plus. que la liste de La République En Marche, et que dans la succession des intentions de vote, on a vu qu'avec l'arrivée de Nathalie Loiseau, au fil du temps, La République En Marche s'est perdu 2 points. Ça aura bien joué un rôle décisif dans ce cas-là.
Sans doute, mais celui qui en paiera les conséquences, je vais vous décevoir, c'est Emmanuel Macron. Donc de toute manière,
le résultat sera le même. Soyons d'accord sur autre chose. Que vous cogniez sur Emmanuel Macron, il n'y a aucun doute.
Non, mais
vous allez avoir beaucoup d'occasions de le faire. Si avant, vous pouvez répondre à ma question, c'est bien.
Je vais vous répondre. Non, je pense que ça peut jouer un rôle parce que je pense que c'est une élection où la mobilisation de chaque camp va être très importante. Et on se mobilise plus facilement si on s'identifie à un candidat et si on peut avoir un vote flatteur. Et je crois que le vote Nathalie Loiseau n'est pas flatteur. Le vote Macron, pour l'électorat macroniste pendant la présidentielle, était conforme à leurs intérêts, à leur sociologie, mais était aussi flatteur parce que c'était quelqu'un qui portait bien, qui savait citer 2-3 livres.
J'adore l'astuce des anti-Macron quand ils rendent hommage au Macron.
Voilà.
Parce que c'est une façon de mettre un peu d'objectivité.
Le vote Loiseau, à mon avis, ne fait pas très envie. Donc je me mets à la place de quelqu'un qui aurait voté Macron à la présidentielle, qui serait un peu déçu de son bilan, qui hésiterait à y aller. Et ben, on ne peut pas dire que Nathalie Loiseau est entraînante, et on a vu par exemple à droite que quand la tête de liste a été nommée, ça a eu malgré tout une petite dynamique parce que c'était nouveau,
Aussi vous pourrez louer Bellamy autant que vous voulez, mais simplement quand c'est dans le sujet dont on parle, parce que si à chaque question, vous répondez en tapant Macron et en louant Bellamy, on n'avancera pas beaucoup. Il y a Richard Ferrand qui vous a répondu par anticipation lundi sur Europe 1.
Je ne vous permets pas de dire que Madame Loiseau n'est pas à la hauteur. Alors, ce fut une ministre des Affaires européennes parfaitement apte et remarquable. Elle était donc la mieux placée pour conduire cette liste. C'est quelqu'un de tenace, de compétent et dont on a besoin. Parce que pendant bien longtemps, les partis politiques ont envoyé à Bruxelles des branquignoles. C'est-à-dire ceux qui perdaient les élections en France, on les recasait. Nous avons au contraire pris les meilleurs d'entre nous pour porter nos idées au plan européen. Arrêtons cette petite musique qui ne repose sur rien, si ce n'est sur le panurgisme médiatique qui consiste à dire
sur voilà, Madame sondages, Loiseau, ceci, cela. Sondages.
Arrêtons, elle est excellente.
Alors, je ne sais pas si je suis une star du panurgisme médiatique. Je trouve juste intéressant que Richard Ferrand dise « Ce fut une ministre des Affaires européennes apte et remarquable. Elle était donc la mieux placée pour conduire la liste. » Parce que établir un lien entre le fait d'être bon ministre et bonne tête de liste à une élection, c'est juste
Et puis c'est l'effet complètement paradoxal de cette candidature où on décide de prendre quelqu'un dont on sait qu'il n'a pas une notoriété, une image extrêmement forte, même ayant été ministre des Affaires européennes. Et on dit donc d'une certaine manière, le plus important, c'est le sujet. Le plus important, c'est le sujet. Mmh. Ça n'est pas la liste, ça n'est pas ceux qui la composent. C'est le sujet, c'est l'Europe. Mmh. Et puis d'un seul coup, le retour du président de la République, il vient se remettre en avant. Donc cette tension, ce paradoxe-là, il est... Je ne sais pas s'il est assumé, mais en tout cas, il est assez flagrant.
D'un seul coup, le retour du président de la République. Eh bien, ce retour, cette façon de transformer l'européenne, les élections européennes, en référendum ou plébiscite, est-ce une bonne idée ? Réponse dans quelques instants.
Chaque samedi jusqu'à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel pour Mediapolis. Olivier qui reçoit aujourd'hui Édouard Le Cerf, directeur adjoint de l'Institut BVA, et Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro et en charge du Figaro Vox.
Alors, nous sommes arrivés à quelque chose d'assez extraordinaire dans ces élections européennes. L'enjeu, le seul enjeu, l'unique enjeu est devenu qui arrivera en tête le 26 mai au soir, entre la liste de La République En Marche et la liste du Rassemblement National. Au regard de l'élection, c'est-à-dire de l'envoi de députés au Parlement européen, ce résultat, qui est en tête, n'a aucune importance. 0-0-0 effet. Un député de plus ou de moins entre En Marche et Rassemblement National ne changera rien au Parlement européen. Intéressant. Nous nous polarisons sur un enjeu qui n'aura aucune conséquence. Et normalement, aucune conséquence nationale. Normalement, qui peut dire dans les élections passées que c'était très important que machin arrive avant truc, etc. Aucune importance non plus. Et pourtant, on a fabriqué cette chose-là. On a fabriqué un enjeu sans importance et à force de le marteler, il aura de l'importance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour considérer que c'est un peu saugrenu, monsieur Devecchio ?
Je vais encore taper sur Emmanuel Macron.
Non, mais ça, on a fabriqué.
Alors, il y a effectivement les sondeurs, le rolling, on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Il y a peut-être le récit médiatique, mais c'est vrai que on a eu le sentiment que Macron et Le Pen, tous les deux, ont envie de fabriquer ce récit-là et ce face-à-face, ce match-là, parce que ça les arrangeait tous les deux. Macron préfère, je pense, avoir Marine Le Pen comme principale opposante, et elle est heureuse d'être effectivement la principale opposante. Ensuite, ça n'aura pas des conséquences immenses sur le Parlement européen, je vous l'accorde, mais cette élection est quand même un grand sondage.
Non, si vous me l'accordez, c'est pas immense, c'est inexistant, si vous me l'accordez.
Je suis pas... inexistant, oui, mais je pense que cette élection est quand même un grand sondage sur l'opinion française et l'opinion européenne par rapport à ce qu'est l'Union européenne, l'Europe, la mondialisation, et ça va être quand même un indicateur si les partis populistes, que ce soit Marine Le Pen en France, Salvini ailleurs, font un gros score. C'est quand même un changement de paradigme par rapport à il y a quelques années où ces partis étaient minoritaires.
Édouard Le Serf.
C'est quand même terrible de dire qu'une élection est un grand sondage. Je ne veux pas dire des sondages, mais c'est vrai que c'est quand même terrible. Ça dit, vous venez de dire très concrètement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est terrible. Les sondages, on les critique en général en disant vous ne vous focalisez que sur la course des petits chevaux qui sera en tête et qui sera second, alors que ça n'a pas toujours vraiment d'importance. Ici, encore moins en termes de conséquences sur la vie politique française. Mais c'est quand même terrible. Mais vous avez raison. De certaine manière, on est en train d'assister à cela. Cette élection intermédiaire, dont on sait tous les éléments, pourquoi est-ce que c'est ce binôme ? Parce qu'il y a une stratégie d'étouffement, c'est-à-dire on laisse les autres ne pas exister. Une stratégie de mobilisation, c'est-à-dire qu'on sait que les Français ne sont pas vraiment intéressés. Donc on se dit, allez, il faut que j'aille chercher un certain nombre d'électeurs. Et je vais aller les chercher avec cet enjeu-là, parce que l'enjeu européen n'est pas vraiment là ou pas suffisamment là. Donc on crée une forme de jeu. C'est très intéressant. Vous allez sur le site de politico.eu. C'est un site sérieux, implanté à Bruxelles et ailleurs. Qu'est-ce qu'il présente ? Il présente un agrégat des sondages et il présente juste en dessous ce que sont les éléments des parieurs anglais sur qui va être en tête. Donc vous voyez bien, on est arrivé dans quelque chose qui n'a pas vraiment de consistance. C'est très dommage.
Mais si vous me permettez, moi je trouve... D'abord c'est dommage pour la campagne, parce que c'est une occasion de parler du fond de l'Europe. Et ça l'efface complètement.
Qu'on en parle quand même.
Enfin, on en parle beaucoup moins. Si vous regardez le temps consacré au fond et le temps consacré à LREM ou Rassemblement National en tête, il n'y a pas photo. Hein. Et ça, c'est une fabrication des sondages, c'est une fabrication du système médiatique, parce que c'est plus marrant et plus facile de parler de ça que de parler du fond. Et c'est une fabrication de Le Pen et c'est une fabrication de Macron.
C'est
Mais
vrai.
Ce qui est grave, ce que je trouve grave, dans la foulée de ce que vient de dire Édouard Le Serf, c'est qu'une fois de plus, on va provoquer de la déception parce qu'on provoque de l'illusion chez les électeurs. On provoque l'illusion que si le Front National, le Rassemblement National arrive en tête, alors au début il y avait que peut-être Macron devrait démissionner, maintenant c'est qu'en tout cas il y aura un grand changement de gouvernement et une inflexion profonde. Et puis si ça ne se produit pas, les gens se diront une fois de plus, on s'est moqué de moi, on est venu me faire voter en me disant que ça avait une très grande importance nationale et que ça allait tout changer dans Macron, et ça se passe pas.
Bah, je crois que les gens sont plus subtils que ça et savent très bien pourquoi ils votent.
Merci de me traiter de crétin au passage.
Non, j'ai pas dit ça, mais je crois que, par exemple, quelqu'un qui va voter aujourd'hui à Rassemblement National, il sait bien que l'Europe va pas changer demain, mais il se dira, ça annihilera la capacité de réforme de Macron, un. Deux, ça enverra un message à l'Europe. On veut une Europe moins technocratique,
etc. Et vous pensez que ça va annihiler les capacités de réforme?
Elles sont déjà bien annihilées, je vous l'accorde, mais c'est un message de plus.
Dit qu'elles étaient bien là, déjà.
Mais je vous le dis que son quinquennat est quand même très compromis.
Vous voulez dire qu'il va renoncer à la réforme d'assurance chômage ?
Je pense que...
Vous voulez dire qu'il va renoncer à la réforme
d'assurance chômage ? Il va essayer, puisque il n'a pas envie de changer de logiciel, manifestement. Donc il va essayer de faire passer les réformes après les autres, les unes après les autres. Mais je pense que ce sera beaucoup plus difficile qu'au début de son mandat, où on avait l'impression qu'il marchait sur l'eau. D'ailleurs, c'est comme ça pour tous les présidents de la République depuis des décennies maintenant.
Oui. Donc si c'est comme ça depuis des décennies, nous sommes d'accord sur un fait, c'est que c'est plus difficile de réformer en deuxième moitié de quinquennat, de mandat présidentiel, donc de quinquennat, qu'en premier.
Ouais, on n'est même pas en deuxième moitié, oui, mais ça, dit ça dit des choses sur ce que veulent ou ce que ne veulent pas les Français. Je pense que ce sera ça.
Ma question était, est-ce que vous pensez vraiment que si la liste Rassemblement National devance d'un point la liste LREM, ça va annihiler les capacités, je reprends votre expression, les capacités de réforme d'Emmanuel Macron ?
Vous pensez vraiment ça ? Je vous ai répondu qu'elles étaient déjà bien annihilées, mais c'est un signe.
Enfin, bien annihilées, ça veut dire anéanti. Hein. Vous savez, nihil, c'est rien. Annihilé, c'est réduit
mais
à rien.
Mais je pense qu'elles sont réduites à pas grand-chose. Pas simplement à cause du fait de cette élection. Cette élection est un symptôme d'un gouvernement qui a été très mal élu.
Pardonnez-moi, vous me répondez toujours pas. Vous me répondez, mais j'aime pas Macron et déjà, il a plus de capacité de réforme. C'est pas ça ma question. Donc je la répète pour la troisième fois. Mais attention, je peux la répéter 18 fois. Est-ce que si sa liste n'arrive pas en tête, ça va encore plus réduire
ou
pas ?
Oui, je vais vous répondre, oui.
Non, avant, vous me disiez c'est déjà fait. Donc, oui, Édouard Le Cerf.
Un petit point, j'espère que vous ne direz pas de nouveau que je suis soit trop nuancé, soit trop sage, mais il y avait peut-être malgré tout quelque chose à trouver dans ce duopole, dans la façon de ce mouvement un peu plébiscitaire sur cette élection.
Attendez, ça m'intéresse énormément maintenant qu'on s'est enfin accordé sur ce que pensait Antoine de Vecchio. Vous nous le dites dans quelques instants.
De 10h à 11h, on vous retrouve Olivier Duhamel avec Mediapolis. Et à vos côtés ce matin, Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro et en charge du Figaro Vox. Et Édouard Le Cerf, directeur adjoint de l'Institut BVA.
Et je vous remercie bientôt, iconique Justine. Édouard Le Cerf, vous disiez que le duopole avait de l'intérêt, finalement, ou qu'on pouvait en faire quelque chose. Je parle du duopole Rassemblement National En Marche.
On aurait pu en faire quelque chose si on avait expliqué, ou si on peut expliquer encore, il nous reste une semaine pour expliquer aux Français que celui qui arrivera en tête, alors certes, la différence de députés ne sera sans doute pas importante, mais en rappelant que tout ça va se passer au niveau européen, qu'au Parlement européen, il y a de grands éléments, de grands mouvements de recomposition, que ce soit au niveau sur le pôle centriste ou le pôle central, ou que ce soit à droite avec la montée des populismes en Europe qui vont amener un nombre de députés européens importants. Et donc il y a des grands mouvements de recomposition qui vont un peu fracturer, qui vont aller taper la droite traditionnelle. Donc on pourrait dire, écoutez, vous êtes en train de préparer des champions pour la Ligue supérieure, la Ligue européenne, là où ça va vraiment se passer. Donc c'est le moment de mettre toutes les forces dans la bataille. On aurait pu raconter un peu cette histoire-là. Ce qui se passe en France est très important pour ce qui va se passer après. Vous êtes en train de préparer les champions.
Alors vous avez raison, et d'ailleurs nous organisons dimanche soir une grande soirée européenne, nous je veux dire Europe 1 et nous Sciences Po, puisqu'on fait ça ensemble, Sciences Po et Europe 1. Je signale à ceux de nos auditeurs qu'ils peuvent tous venir, mais il y a juste une obligation de s'inscrire, donc il y a un site, mais moi vous savez le site c'est trop compliqué, mais vous tapez Sciences Po soirée européenne et ça vous met sur le site tout de suite. Et comme ça on s'y retrouvera 5 heures de débat, de musique, de réflexion, avec des universités à travers l'Europe, sur les élections en Europe. Parce que c'est ça qui est important que vient de dire Édouard Le Cerf. C'est que pour la première fois, le seul pari qu'on peut faire, peu risqué, c'est que pour la première fois, les socialistes du PSE et les conservateurs ou centristes droite du PPE n'auront pas ensemble la majorité. Or, ils gouvernent au Parlement européen en grande coalition depuis des années, des années et des années. Et là, tout d'un coup, ça va changer. Ce qui veut dire que la constitution d'une majorité va être nouvelle et plus difficile. Et donc, c'est un très gros enjeu politique. Alexandre Devecchio, ouais, qui est journaliste...
C'est un très gros enjeu politique, mais Valéry Giscard d'Estaing a rappelé que finalement, ce Parlement avait peu de pouvoir. Mais c'est vrai que c'est un enjeu politique à long terme, parce que je crois que dans ce duopole, même si je l'ai critiqué, Macron-Le Pen, il y a une part de vérité.
Le Parlement européen a de plus en plus de pouvoir, cher
De clivage, si vous voulez, mais je reprends les mots de Valéry Giscard d'Estaing, qui disait que cette élection ne changerait pas grand-chose. Moi, je crois...
Giscard d'Estaing, dès qu'il n'est pas en cause, il pense que ça ne change pas grand-chose. C'est pas,
D'accord. Mais pour finir, je crois que le duopole est un duopole finalement qu'on retrouve dans beaucoup de pays européens aujourd'hui. Et s'il y a un véritable changement, c'est une recomposition politique avec désormais des libéraux de droite et de gauche qui assument d'être pour un système mondialisé, européiste, ouvert. Et en face, quelque chose qui est en train de naître, qu'on appelle certains une internationale nationaliste, de gens qui politiquement se réunissent et veulent apporter des protections à la mondialisation,
belle
plus
nouveauté,
de fermeté en termes d'immigration,
international nationaliste.
Oui.
L'oxymore, le fait qu'en ce moment Marine Le Pen soit avec Salvini à Milan. Je veux dire, le fait que ces nationalistes souverainistes, traditionnellement, voulaient sortir de l'Europe, sortir
et
de l'euro,
étaient
contre l'Europe, et que maintenant, ils veulent transformer
parce qu'ils sont
pour l'Europe,
ils sont plus puissants,
mais c'est quand même le signe
parce qu'ils étaient marginaux,
d'un grand succès de l'Europe.
Ils étaient marginaux jusqu'ici. Non, moi je crois qu'ils étaient marginaux jusqu'ici, et justement, vous l'avez dit, ils vont malgré tout pouvoir peser un peu plus sur le Parlement et peut-être demain sur la Commission s'il y a des bascules, de nouvelles bascules qui se font dans chaque État. Donc ils se disent, si demain on est majoritaire, bah, pourquoi pas changer l'Europe de l'intérieur plutôt que d'en sortir. Je pense que c'est le calcul politique qui est fait, qui est cohérent, qui s'explique et qui n'a rien de paradoxal en fait.
Alors pendant ce temps-là, que faire pour amener les électeurs à voter ? Alors Paul Lassaigne qui nous cherche des choses un peu originales dans le monde nouveau de la vidéo a trouvé que La République En Marche lançait un jeu vidéo. La liste Renaissance de La République En Marche, conduite par Nathalie Loiseau, qui vous est si chère, Alexandre Devecchio, inspirée du célèbre Super Mario, vous pouvez y incarner la tête de liste Nathalie Loiseau. Et le but du jeu, c'est de devenir un super député européen en récupérant les 12 étoiles du drapeau, une étoile par niveau. Et pour ça, il faut affronter des boss populistes, parmi lesquels Marine Le Pen, Donald Trump, ou encore Mélane Russe, une caricature de Mélenchon. Mélane Russe, grimée en guêpe géante. Une initiative qui d'ailleurs n'a pas plu du tout, vous l'imaginez, au leader de la France Insoumise. L'idée du jeu, c'est d'aller faire voter les jeunes. Paul Le Seine n'est pas convaincu que c'est la moindre efficacité. Et vous, Édouard Le Cerf ?
Non, je suis convaincu éventuellement que ça fera surtout rire. Ça pourra éventuellement convaincre ceux qui étaient déjà convaincus d'aller voter parmi les quelques jeunes qui pourraient le faire, parce qu'on a un vrai problème de mobilisation au niveau général. On va le redire, et on le redira sans doute le soir de l'élection. Cette élection a aussi une incapacité à pouvoir projeter ce que sera la France de demain d'un point de vue électoral. Et même si on parle de la capacité à pouvoir rendre plus faible encore Emmanuel Macron de cette élection, il va falloir se souvenir, tous autour de la table et d'autres, que l'élection sera peu participante et peu prédictive de ce que sera le schéma politique et l'organisation politique en France.
Peu participante et peu prédictive. Alors du coup, sur la prévision de bouleversement des plaques tectoniques du paysage politique français, il s'est passé un micro événement cette semaine dont on doit essayer de mesurer la portée. Mais juste avant, pour clore notre séquence, je voudrais vous poser une question à laquelle, si vous voulez bien, vous répondez par oui ou par non. Est-ce que c'était une erreur de Macron de jouer la transformation référendaire de cette élection parce que du coup, il en paiera le prix s'il ne gagne pas, ou est-ce qu'il a bien fait parce que c'était la seule façon pour lui aussi de mobiliser son électorat ? Erreur ou bien fait ? Vous me répondez dans quelques instants.
Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro et en charge du Figaro Vox, et Édouard Le Cerf, directeur adjoint de l'Institut BVA, sont vos invités ce matin, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Donc Alexandre Devecchio, la plébiscitarisation de l'européenne, la transformation de l'européenne en référendum pour ou contre Macron, par Macron lui-même, il a eu raison ou tort ?
Il a eu tort. Mais j'ai un peu envie de vous dire, vous vouliez une réponse simple, oui. J'ai un peu envie de vous dire, on verra à l'issue du résultat. S'il l'emporte, il aura eu raison parce qu'il aura mobilisé son électorat et il apparaîtra comme relégitimé pour un certain temps parce que, comme vous l'avez dit, ça ne changera rien aux réalités du pays. S'il perd, il apparaîtra comme le grand perdant.
Même réponse.
C'est quitte ou double, c'est un pari.
Même réponse au demeurant pas. D'une extraordinaire originalité, mais probablement pertinente, cher Alexandre Devecchio.
Merci.
Il a eu raison s'il réussit, il a eu tort s'il rate.
Non, malheureusement, à cause du contexte, c'est stratégiquement sans grand risque et politiquement plutôt cohérent par rapport à ce qu'il est. Donc, je ne peux pas dire qu'il ait eu tort de le faire,
même
malheureusement.
Si
on vient de dire que rater, ce serait quoi ? Rater, ce serait être un point derrière ou trois points derrière. Alors, si on tombe sous les 20 points, on pourra dire que oui, là, ça peut être un peu compliqué. Mais sinon, on vient d'expliquer que finalement, ça n'était pas ça l'élément principal. L'élément principal, c'est de penser au nombre de députés qui pourront être au Parlement européen pour défendre, pour reconstruire, pour reconstituer.
Et si, puisqu'on est obligé pour part de concéder un zeste à cette polarisation absurde, aujourd'hui, vous diriez, si vous étiez obligé de répondre, vous diriez que vous pensez que laquelle des deux listes va arriver en tête ?
Je pense. Vous me demandez de faire un pronostic. Donc,
oui.
le Rassemblement national est sur une dynamique plus positive.
Voilà. Oui, je pense que le Rassemblement national va arriver en tête, et c'est pour ça que je pense qu'au final, il a quand même eu tort, parce qu'il aurait pris ses distances.
D'accord.
La défaite aurait été moins loin.
Quelle que soit la question, il faut rajouter Macron eu tort. Non, d'accord.
Ouais,
Et alors, puisque vous avez la gentillesse de me poser la question, je vais vous dire, c'est très simple, je n'en sais absolument rien, mais si on me force à répondre, je réponds le Rassemblement national. Et vous savez pourquoi ? Parce que si je réponds le Rassemblement national et que c'est le cas, ça ira très bien, tout le monde. Mais si jamais j'avais le malheur de répondre La République En Marche et que c'était le Rassemblement national, là on s'en souviendrait et on dirait « Ah, vous vous êtes bien planté ». Donc pour ne pas prendre de risque, je répondrai le Rassemblement national, alors qu'en vérité, je n'en sais absolument rien.
Non, aujourd'hui, quand on regarde les courbes, si on prend compte la marge d'erreur, c'est pour ça que je parlais, c'est plus sur la dynamique que l'on aperçoit, mais encore une fois, en une semaine, une dynamique peut changer, peut évoluer, il peut y avoir une erreur, il peut y avoir... Aujourd'hui,
donc
les deux,
êtes d'accord,
ils sont dans la marge d'erreur.
Vous avez répondu parce que je vous ai poussé, mais que vous êtes comme moi, vous n'en savez rien.
Ah, aujourd'hui, on est dans la marge d'erreur. Si voilà. Vous preniez,
et
au lieu de prendre un point, vous preniez...
Alexandre Devecchio, votre désir que Macron se plante est tel que vous y croyez vraiment.
Mais vous faites les. Vous êtes dans ma tête et dans mon. Mais je pense effectivement que le Front National aujourd'hui va gagner, puisque je pense que son électorat va se mobiliser. On dit souvent qu'on ne se mobilise pas aux européennes. Je pense qu'il y a un électorat qui est fondamentalement eurosceptique et qui va se saisir de cette occasion pour adresser un double message anti-Macron et anti-Europe.
Et le pronostic, les Français aujourd'hui pensent que c'est le Rassemblement National qui sera en tête.
Alors maintenant, le micro-événement dont je vous parlais, le fait qu'un conseiller régional de la France insoumise, gauche, soit passé au Rassemblement national, droite, est-ce que c'est l'annonce de quelque chose de très important ou est-ce que c'est dérisoire? Écoutons sur le sujet successivement. Enfin, d'abord Adrien Quatennens, député de la France insoumise du Nord, sur BFM mercredi.
C'est un coup monté de longue main, ça se voit. Je veux dire, l'interview d'hier sur votre plateau était extrêmement préparée, c'était du papier à musique. Donc c'est un coup monté, c'est une trahison politique et surtout c'est un naufrage individuel. Je veux dire, ce monsieur a perdu sa boussole politique. Il a dit, il faut voter pour la liste de monsieur Bardella pour faire barrage à monsieur Macron. Ça veut dire que pour faire blocage à monsieur Macron, monsieur Cotarac nous invite à voter pour la liste de madame Le Pen, alors que son principal allié en Italie, monsieur Salvini, court après la politique fiscale de monsieur Macron, veut faire la flat tax, était ravi de la loi asile-immigration de monsieur Macron.
Donc, marginal, un type qui perd les pédales, un naufrage individuel. Analyse différente, Jean-Michel Apathy sur Europe 1, notre éditorialiste politique, jeudi matin.
On dit, ah ben, ces partis sont très différents. Ce qui est vrai. La France insoumise et le Rassemblement national n'ont pas la même histoire, n'ont pas les mêmes valeurs. La question de l'immigration les sépare, c'est une évidence. Mais ils ont aussi des points communs. Depuis 10 ans, Jean-Luc Mélenchon a nationalisé son discours économique et social. Qui l'amène aujourd'hui à dire que l'Union européenne, c'est le cheval de Troie du libéralisme. Jean-Luc Mélenchon, au fil du temps, est devenu souverainiste comme l'est Marine Le Pen. Et de son côté, Marine Le Pen a fait du chemin aussi. Elle a débarrassé au fil du temps, sous l'influence de Florian Philippot, le discours du Front National de toute adhésion au libéralisme et elle aussi fait aujourd'hui de l'Union Européenne le cheval de Troie des politiques libérales et c'est pour ça, patati patata, qu'elle combat Emmanuel Macron.
Et c'est pour ça, patati patata, qu'elle combat. Mais c'est quand même une vraie question politique fondamentale de savoir s'il s'agit de quelque chose de très marginal ou si, compte tenu d'un éloignement idéologique moindre qu'autrefois, la Apathy a raison, c'est indiscutable. Est-ce que ça peut arriver jusqu'au fer à cheval, jusqu'à la jonction, jusqu'à un modèle type en Italie, le mouvement des 5 étoiles et la Ligue d'extrême droite s'alliant et gouvernant ensemble? Réponse de nos invités dans quelques instants.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi Édouard Le Cerf, directeur adjoint de l'Institut BVA, et Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro et en charge du Figaro Vox.
Et dans le CERF, il y a un de vos concurrents, Odoxa, qui a publié une enquête sur l'image du Rassemblement National et qui montre d'une part qu'ils atteignent leur niveau record de bonne opinion avec 36%, mais surtout que les évolutions sont extrêmement sensibles chez les sympathisants de la France Insoumise. C'est-à-dire qu'ils sont dorénavant 31% à avoir une bonne opinion de Rassemblement National. Ils sont extrêmement nombreux aussi, 56%, comme l'ensemble des Français, à considérer que c'est un parti comme les autres. Est-ce qu'il y a une vraie convergence qui s'amorce entre la gauche de la gauche et la droite de la droite.
Électoralement, il y a eu des mouvements, ça a existé lors des élections précédentes. De manière générale, encore une fois, les électeurs français sont aujourd'hui beaucoup plus mobiles, sont capables de passer d'un parti à l'autre. On a plus ces fidélités là, et ces fidélités peuvent aller aujourd'hui jusqu'à la forme de transgression dont vous parlez, c'est-à-dire oublier un peu l'étiquette, s'intéresser simplement à quelques idées, quelques points d'accroche importants. On est aujourd'hui, puisqu'on parle de cette élection européenne et de ce syndrome, de la manière dont une personnalité de la France insoumise a varié les choses. Je pense qu'on n'est pas encore du tout sur un syndrome italien auquel vous faisiez référence. Des porosités électorales, on l'a dit, existent. Il y a des éléments programmatiques qui peuvent amener à se rapprocher. Il y a aussi, ce dont on parlait plus tôt, cette notion d'efficacité. Et c'est vrai que le fait de voir derrière qui va gagner, est-ce que c'est l'un ou l'autre, eh bien, peut amener un certain nombre de personnes à se dire « Je n'ai pas envie que mon vote se disperse et se perde, et je vais donc l'utiliser pour battre Macron, puisque pour un certain nombre, et là on retrouve un rapprochement dans ce discours entre certains de la France insoumise et le Rassemblement national. » Et puis, il y a aussi cette idée qu'il y a un certain nombre d'idées, justement, qui sont mises en avant, qui sont aujourd'hui très largement partagées sur ces élections européennes. Si l'on parle
ça simplement... Ça fait quand même des éléments de convergence, ça.
Ça fait des éléments de convergence. Mais stratégiquement, c'est plus tactiquement. À un moment donné, je vais pouvoir aller mettre mon bulletin de vote pour quelqu'un dont je vais un peu oublier l'étiquette pour essayer de m'accrocher sur deux, trois éléments, soit d'efficacité, soit parce que je pense que la protection dont tout le monde parle aujourd'hui est un peu plus défendue
que d'un côté de l'autre.
Mais ça peut revenir et ça peut repartir. Encore une fois, il faut un peu oublier les grands schémas très solides sur lesquels on disait « mes parents étaient gaullistes et je suis donc gaulliste et je ne changerai pas ».
Le CERF ne m'a répondu qu'à moitié. Alexandre Devecchio, oui, est-ce qu'il peut y avoir convergence? Est-ce qu'on voit naître des éléments qui, du rapprochement sur certains points, pourraient conduire à la convergence?
Moi, je crois que effectivement, les vieux clivages sont balayés. Il y a un nouveau clivage, c'est celui que je vous ai indiqué tout à l'heure. Il n'y aura pas d'alliance, je pense, électorale entre les deux. On n'est pas dans le même système institutionnel que l'Italie. Et en plus, Jean-Luc Mélenchon a abandonné la stratégie populiste. Effectivement, il avait récupéré une partie de l'électorat populaire des abstentionnistes pendant la campagne présidentielle. Mais là, il est revenu à quelque chose de beaucoup plus gauchiste, ce qui explique justement qu'il a certains cadres qui dérivent vers Marine Le Pen. Donc je pense qu'il y aura une porosité, si vous voulez, dans l'électorat. Demain, il y aura un électorat qui viendra de gauche et de droite et qui se positionnera beaucoup plus sur l'enjeu de la mondialisation, de l'Europe, etc. Mais ça ne se fera pas par des alliances entre différents partis. Mais après, oui, il y a effectivement un électorat qui se positionne plus sur le clivage droite-gauche, qui vient de gauche et de droite, et qui peut s'opposer effectivement à l'alliance des libéraux de gauche et de droite.
Édouard Le Cerf,
vous nous avez reposé de ne pas vous demander votre avis là, lors de la précédente question. Quel est votre avis sur cette question, Olivier?
Je suis assez d'accord qu'il y a un gros obstacle institutionnel qui est le scrutin majoritaire à deux tours. Mais on peut imaginer un scénario dans lequel il y a un événement d'un président de la République qui décide d'adopter un scrutin proportionnel, et avec un scrutin proportionnel, alors après, quand il faut fabriquer une majorité, tout est possible. Ça a été une des choses qui l'ont rendu possible en Italie. C'est qu'au lendemain de l'élection, ils ont pu faire quelque chose qui était totalement inattendu. Aujourd'hui, il y a un mur qui s'appelle le scrutin majoritaire de tour, mais ce mur n'est pas nécessairement éternel. Et alors, pendant ce temps-là, Alexandre Devecchio du Figaro, pendant ce temps-là, il s'est passé autre chose dans cette campagne, il faut bien le dire. C'est l'apparition parmi toutes ces têtes nouvelles de votre belle amie. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez?
Vous n'en savez rien.
Alors, de peut-être votre belle amie. Alors, belle amie est-il votre belle amie? Vous me répondez dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Et aujourd'hui, Olivier, vous êtes entouré d'Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro et en charge du Figaro Vox, et Édouard Le Cerf, directeur adjoint de l'Institut BVA.
Et oui, Justine, je ne suis pas entouré de gilets jaunes, sauf sur BFM. Mais alors, comment fait BFM pour traiter les gilets jaunes quand il n'y a plus de gilets jaunes, ou presque dans les rues? Eh bien, BFM sort des images d'archives gilets jaunes. Autant le dire, vous en avez pour 10 ans. Bon, alors revenons à notre question, s'il vous plaît. Alexandre Devecchio, est-ce que Bellamy est votre belle amie?
Je ne sais pas quelle est cette question. Je dirais qu'il a fait une campagne plutôt réussi. Il a réussi effectivement à mobiliser son camp. On disait que l'enjeu des européennes, c'était de remobiliser son camp. Il est parti de 8%. Il va finir sans doute à 14-15 si on en croit les sondages. De ce point de vue, c'est plutôt une réussite. Il a apporté un style nouveau, un coup de jeunesse. Ceci dit, moi, si j'ai un regret par rapport à la droite, il a montré que le cœur de la droite, c'était quand même l'électorat conservateur, mais que ça restait un électorat de niche aujourd'hui, de la même manière que la gauche est plus qu'un électorat de niche. Et donc, la droite, si elle veut revenir au pouvoir, va devoir aller chercher le peuple, comme partout ailleurs en Europe et dans le monde, avec Trump.
Edouard
et ça, on n'y est pas encore.
Edouard Le Cerf.
Sur deux mois, vous avez raison. Sur la durée, malheureusement, vous avez tort, parce que l'élément de référence sur lequel il faut mesurer la puissance ou la capacité de la droite à pouvoir se reconstituer, on va prendre l'élément le plus récent, c'est le premier tour de l'élection présidentielle de 2017, et vous avez le score de 20% de François Fillon.
On peut dire 20% de François Fillon en lambeaux.
Oui, de François Fillon
très
en lambeaux.
Très affaibli.
Effectivement, très affaibli. Et on est aujourd'hui dans des circonstances où Emmanuel Macron, on a cessé de le répéter, ou en tout cas de l'entendre, est affaibli, où le Rassemblement National est puissant, où la droite aurait l'occasion de se reconstituer. Alors oui, il y a eu une petite dynamique, François-Xavier Bellamy, oui, quand on part de 8% dans les toutes premières intentions de vote qui ne veut rien dire, à quelque chose d'un peu plus solide.
Mais ça, c'est la crétinisation de la média politique, cher Édouard Le Cerf. C'est qu'on compare, on dit qu'un type réussit par rapport à des premiers sondages à froid, au lieu de regarder par rapport à la réalité. Tout devient virtuel maintenant, n'est-ce
Alors,
pas
voilà, ça n'est pas... Ça n'est pas dramatique, le fait de voir effectivement qu'il n'a pas vu le capital se déliter encore, mais encore une fois, que la droite puisse se dire à un moment, je me suis reconstitué parce que je suis à 14 ou 15%.
Ah, j'ai pas dit ça.
Non, mais on a pu l'entendre.
Elle a reconstitué son noyau dur, mais c'est
je
tout.
Pense qu'on l'entendra, qu'on l'entendra dimanche prochain.
Il offre un sourcil à la droite qui aurait pu mourir définitivement dans cette élection. Mais effectivement, c'est ce que j'ai dit, il y a un grand mouvement historique, la droite et la gauche ont perdu l'électorat populaire. Fillon a perdu, pas seulement à cause des affaires, parce qu'il a fait quasiment zéro chez les classes populaires. Et moi, je crois qu'il faut aller à la reconquête. Parce que le modèle, vous disiez, les gilets jaunes, ça va durer 10 ans. Oui, ça va durer 10 ans, 20 ans. Netanyahou, dans le contexte particulier d'Israël, a gagné 4 fois. Orban a gagné 4 fois. Trump, je pense, va être réélu. Donc, ce qu'on voit là à l'échelle européenne, je pense que les commentateurs se trompent s'ils pensent que c'est un épiphénomène accidentel lié à la crise. Je pense que c'est une reconfiguration majeure qui va durer de la même manière que les électeurs du Brexit, contrairement à ce qu'on dit, n'ont pas changé d'avis en 2 ans. Et c'est pour ça que le Brexit Party va faire un gros score.
Et encore une fois, à 14% ou à 15%, on ne retrouve pas la densité nécessaire pour redevenir effectivement refaire de l'attraction sur cet électorat qu'il a perdu.
Alors, vous avez mentionné Trump, on a parlé tout à l'heure de Marine Le Pen en Italie avec Salvini. Alice Baudry, a attiré notre attention. Alice Baudry qui dirige la stratégie et le développement à l'Institut Montaigne et qui surveille les médias internationaux pour cette émission, attire notre attention sur les commentaires, des commentaires appelés de la rencontre Trump-Orban. Parce que je rappelle que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, extrêmement populiste et souverainiste, néanmoins refuse de s'allier avec Marine Le Pen et a refusé de participer au grand show des autres souverainistes populistes qui a lieu aujourd'hui. Et Alice Baudry mentionne un article de Marine Kahn dans The Financial Times du 14 mai, « When Victor meet Donald », quand Victor rencontre Donald, Victor Orban et Donald Trump. Il y avait beaucoup de bonhomie quand Victor Orban a rencontré Donald Trump dans le bureau ovale le 13 mai pour la première visite d'État d'un Premier ministre hongrois à Washington en 15 ans. À première vue, les deux hommes forts autoproclamés ont de quoi sourire puisque Trump a félicité son homologue hongrois d'avoir défendu les chrétiens d'Europe, d'avoir une position véhémente contre l'immigration non européenne et d'être un très bon membre de l'OTAN. Ce qui est assez comique, très bon membre de l'OTAN, parce que les dépenses militaires de la Hongrie sont catastrophiquement à la traîne. Et Trump d'ajouter « Il est respecté dans toute l'Europe !» C'est assez comique, Trump, voyons. Orban respecté dans toute l'Europe. « Comme moi, il est un peu controversé, mais c'est un homme dur. Il agit comme il se doit en matière d'immigration », a déclaré Trump aux journalistes qui attendaient. Alors Orban ne se sentait plus, il rayonnait. Washington, pourtant, exprime des réserves et les griefs de la Maison Blanche contre le Premier ministre nationaliste de droite sont très nombreux. Il y a eu le rapprochement hongrois vers la Chine, l'affaire Huawei, la résistance à maintenir l'université de Soros à Budapest malgré les demandes des États-Unis, une demande d'extradition, etc., etc. Il y a plein de désaccords, mais ça a été le grand show. Donc on s'aperçoit que le camp souverainiste, qui a, populiste, qui a beaucoup de points communs, a quand même des lignes de clivage qui persistent et qui seront dures à surmonter, d'un mot, puisque l'émission termine.
Je ne sais pas si elles seront dures à surmonter, mais c'est vrai que Orban est un vrai souverainiste, c'est un vrai nationaliste, donc il continue à défendre les intérêts de son pays, et s'il juge nécessaire de discuter avec Poutine parce qu'il importe du gaz russe, il le fait. Mais je crois qu'il y a un respect des deux, justement parce que c'est deux dirigeants qui défendent les intérêts de leur pays, donc ils se comprennent,
génial,
et il y a une solidarité des bannis, puisque vous avez dit effectivement, que les élites étaient dédaigneuses.
J'y réponds, ils ont répondu par rapport à Poutine. Aucun rapport avec ma question.
Mais
vous êtes mûr pour faire de la politique, Alexandre Devecchio. Allez, l'émission se termine. Pour se terminer, on a fait une chanson, on a choisi une chanson. Et là, pour le coup, pas tellement une chanson pour des raisons politiques, pour changer, mais une chanson juste en hommage à Doris Day, très connue évidemment, et qui vient de décéder. Oscar de la meilleure chanson tirée du film de Hitchcock de 1956. L'homme qui en savait trop, que sera, sera.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera, what will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead, will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be.
En fait, la chanson, on pouvait la dédier à Le Pen, on pouvait la dédier à Macron, ou alors à Édouard Le Cerf, qui en a assez, qu'on lui demande qui va gagner, et qui répond, ben, ce qui sera, sera, whatever, quoi que ce soit, whatever will be, sera. Eh bien, cette émission se termine, vous pouvez la faire entendre sur Europe 1.fr en podcast.